Bonjour Agnès Hubert, vous faites partie du bureau des conseillers de politique européenne. En quoi consiste votre métier de conseillère européenne ?
Alors le bureau des conseillers de politique européenne, c'est ce qu'on appelle en bon français un think tank. C'est-à-dire que c'est un service qui a pour fonction de conseiller le président soit sur des questions de son agenda politique présent, mais beaucoup plus sur le fait de regarder un petit peu l'avenir des 27, grosso modo, et quelles sont les raisons d'intervenir ou pas au niveau européen et quelles sont les possibilités de renforcer l'intégration, puisque c'est notre travail à la Commission européenne.
Au niveau de la France, quelle est la position de notre pays dans l'Europe en matière de parité au travail ?
Il y a plusieurs éléments. D'abord, la situation des femmes dans l'emploi est pas si mauvaise que ça en France par rapport à d'autres pays, mais on en est encore à une participation des femmes d'environ, je crois que c'est 56% en Europe et 58% en France, donc il y a encore de la marge quand on constate que les femmes sortent des systèmes éducatifs plus diplômés que les hommes pour la plupart, hein, même si c'est dans des filières plus littéraires. Alors parité, il y a aussi au niveau des postes de prise de décision. Postes de prise de décision politique, on en parle beaucoup, la parité, mais pour ce qui est des postes de position cadre supérieur ou cadre dirigeant dans les entreprises, la France fait pas mal par rapport aux pays européens. La moyenne européenne est environ à 30% de cadres dirigeants dans les entreprises et la France doit être à 32% ou quelque chose comme ça. Donc la France est pas mal située.
Et qu'est-ce qui fait que la France n'est pas si mal située au final ?
Je crois qu'il y a une politique d'égalité, de construction d'infrastructures et de mise en place de services pour ce qui est de la conciliation travail-famille qui a été un peu plus importante que dans d'autres pays. Ça ne veut pas dire que la situation soit entièrement satisfaisante, hein. Il y a encore un manque de crèches, mais il y a quand même eu tout un système qui a été mis en place dans les années 80 qui permet de jongler de manière un petit peu moins acrobatique que dans d'autres pays entre les temps familiaux et les temps professionnels.
Sans vouloir mettre tous les pays européens en concurrence, sur la question de la parité au travail, la France se situerait plutôt dans le haut du panier, au milieu ou vers le bas ?
Ça intègre beaucoup d'indicateurs, donc c'est un petit peu difficile et on essaye même à l'heure actuelle de développer un indicateur composite justement qui permette de capturer un petit peu cette idée qu'il y a des questions de représentation dans les niveaux de pouvoir, il y a des questions d'autonomie financière, pouvoir financier, il y a des questions de partage du temps, il y a des questions de santé, tout ça, ça devrait pouvoir être intégré. La France, pour ce qui est des femmes cadres dirigeants, pour ce qui est de la situation des femmes dans l'entreprise privée, c'est plutôt bien. Pour ce qui est de la parité en politique, extrêmement mal. Paradoxalement, c'est le seul pays qui a une loi sur la parité. 12% de femmes au Parlement, alors que la moyenne européenne est à près de 35%.
Quel serait le pays numéro 1 en Europe ?
Les pays nordiques, la Suède, la Finlande, le Danemark, ça se vaut peut-être un petit peu plus la Suède. Mais c'est des pays dans lesquels il y a une culture d'égalité qui a émergé beaucoup plus rapidement parce que dans les années 60, pendant les 30 glorieuses, quand on a fait appel massivement à une main-d'œuvre immigrée à ce moment-là, les Suédois n'ont pas importé de la main-d'œuvre immigrée, mais ils ont attiré les femmes sur le marché du travail.
Pensez-vous que la France sera, disons, dans 10-20 ans, avec les changements des mentalités, elle sera numéro un dans ce domaine de l'égalité homme-femme ?
Est-ce que la France a un rôle moteur en matière d'égalité ? D'une manière générale, je crois que chaque fois que j'ai eu affaire à une présidence française de l'Union européenne, j'ai trouvé des interlocuteurs. C'est-à-dire, ça a été Simone Veil, par exemple. À chaque fois, on trouve des interlocuteurs qui sont intéressés, qui font avancer les choses. Le fait d'avoir eu tout ce débat et d'avoir légiféré sur la parité, ça a aussi été quelque chose qui a amené la France à débattre beaucoup plus des questions d'égalité homme-femme, pourquoi, qu'est-ce que c'est que l'égalité substantielle, qu'est-ce que c'est que l'égalité formelle, etc. C'est des choses qui ont été importantes, disons, dans le débat, non seulement européen, mais également international. Donc la France a sans doute un rôle moteur. Ce dont on s'aperçoit, c'est que, par ailleurs, on reste dans une société où le machisme se porte bien encore, et non seulement chez les hommes, mais également chez certaines femmes. Mais bon, les choses sont en train de changer.
Donc si je comprends bien, en fait, la question de l'égalité homme-femme, elle est très liée à la culture en soi du pays. Ça veut dire que, malgré cette culture qui est ancrée dans chaque pays, Il y a quand même possibilité que ça change fortement.
Mais je crois que la culture change avec les faits également. Hein. Les femmes sont de plus en plus éduquées. En plus de ça, je pense qu'il y a véritablement maintenant une demande du marché du travail. Avec le vieillissement de nos populations, on a véritablement besoin de main-d'œuvre. Dans les 10 ans qui vont venir, on va de plus en plus avoir à faire appel à de la main-d'œuvre, soit de la main-d'œuvre immigrée, soit attirer l'ensemble des femmes sur le marché du travail. Et je crois que de plus en plus aussi, ce qui est important dans les réalisations récentes, c'est notamment que ce n'est pas incompatible d'avoir des enfants et une famille et d'avoir un métier pour une femme. Au contraire, ce sont les femmes qui travaillent, qui ont le plus d'enfants. Et donc, il faut qu'on réfléchisse maintenant à la manière dont les choses s'articulent, donc que la société dans son ensemble prenne beaucoup plus en compte les risques et les difficultés qui peuvent être liées justement à ces questions de conciliation travail-famille, plutôt que de penser que bon ben, il y a d'une part la sphère publique, la sphère professionnelle, et puis d'autre part la sphère familiale où les femmes se débrouillent. Donc maintenant je pense que c'est véritablement l'enjeu actuel. On arrivera à bénéficier de tout le capital de compétences des femmes à partir du moment où on s'assurera aussi qu'on a véritablement pris en compte cette question de la conciliation travail-famille comme une question politique.
Quel est le rôle de l'Europe dans cette question d'égalité hommes-femmes ?
Je crois qu'il a été considérable parce que finalement le niveau européen est en même temps un niveau de comparaison, un niveau d'impulsion, un niveau d'aide, y compris économique. Et je pense que la combinaison de cet ensemble de facteurs, donc de comparaison entre pays européens, de comparaison aussi d'échange de bonnes pratiques aussi. Ah ben tiens, ils font du gender budgeting, ah ben tiens, ça marche le gender budgeting. Ah ben oui, bon, on va essayer aussi. Ou alors, tiens, les crèches parentales, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pas intéressant?
Et qu'est-ce que c'est le gender budgeting?
Gender budgeting, c'est regarder dans les allocations de ressources, en particulier les allocations de ressources publiques, mais ça peut être fait même au niveau de l'entreprise. Hein. Qu'est-ce qui bénéficie plus spécifiquement aux femmes ou plus spécifiquement, quels sont les bénéficiaires finaux? Donc quelquefois, c'est un exercice qui est véritablement extrêmement difficile, hein, parce que financer une route, est-ce que ça profite plus aux femmes ou plus aux hommes? C'est quelque chose qui est assez intéressant. L'exemple type, c'est de dire, bon, ben, on finance une crèche plutôt qu'un terrain de football. C'est un peu caricatural, hein. Quand on finance un nouveau parc d'autobus dans une ville, est-ce qu'on va choisir l'autobus puissant qui est beau, qui a une mécanique hors pair, ou est-ce qu'on va favoriser l'autobus où on peut rentrer avec une poussette, avec éventuellement pas un moteur aussi flamboyant, mais avec des petits moteurs sur les roues pour que l'autobus soit plus bas. Des choses aussi bêtes que ça. Hein. Ça amène véritablement à s'interroger sur qu'est-ce qui est bon pour le consommateur final, pour le bénéficiaire, le citoyen, la citoyenne.
Ça amène aussi à considérer le consommateur également comme une consommatrice.
Aussi, absolument, oui.
Merci Agnès Hubert et au revoir.
Je vous en prie.